Merci beaucoup Mélanie Audouy d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Pulse. Alors tu es chargée de la médiation du patrimoine et de la communication de la ville de Ciel-Guillaume. Alors déjà, comment ça va aujourd'hui ?
Ça va très bien, merci.
Et alors, avant de parler un petit peu de ton rôle, j'aimerais parler du château qui, j'avoue, m'intrigue beaucoup. Le château de Ciel-Guillaume, est-ce que tu pourrais nous le décrire comme ça ? On l'a tous bien en tête.
Oui, tout à fait. Écoutez, je pense qu'en tête déjà, on peut imaginer un vrai château fort. On a quatre tours de défense, des remparts qui l'encerclent. Donc on a une partie plus ancienne qui date du 15e siècle, de la fin du 15e siècle, qui est vraiment une partie défensive. Et puis on a une autre partie qui est un peu plus récente, qui date du 17e siècle. Qui a été construit pour être résidentiel, plus agréable à vivre qu'une forteresse. Donc il y a une architecture totalement différente sur cette façade-là. Et cette partie du 17e est actuellement en restauration. Donc voilà un petit peu pour les différentes facettes du château.
Est-ce que tu sais qui a construit ce château en tout premier ?
Alors, en tout premier, il s'appelait Guillaume, d'où le nom de la ville.
D'accord.
D'ailleurs, Ciel-Guillaume, ouais. En fait, le premier seigneur à construire un château ici, c'est au XIe siècle, donc il y a 1000 ans. Il s'appelait Guillaume, c'était un château en bois à cette époque-là. Et après, bon, il a été détruit forcément, reconstruit plusieurs fois. Mais tel qu'on le voit actuellement, la partie forteresse du XVe, c'est un monsieur qui s'appelait Antoine de Beauvau. D'où la tour de Beauvau, qui est la tour principale du château.
Est-ce que ça a une importance, le lieu où il a été construit, ou alors c'est simplement Guillaume qui a eu l'idée de placer le château là, et depuis c'est resté ?
Alors oui, bon, Guillaume il l'a construit ici pour une raison bien particulière. Bon déjà, on est en hauteur, donc on voit très bien les ennemis arriver. Et puis surtout, il y a un chef au-dessus de ce seigneur, c'est le comte du Maine, qui, au Moyen-Âge, décide en fait de demander la construction de forteresses tout au long de la frontière du comté du Maine, qui équivaut à la Mayenne, à la Sarthe aujourd'hui. Et donc, on a une ligne de fortifications qui sont construites justement pour protéger le comté du Maine d'une invasion du duc de Normandie. Donc, les Normands, vous étiez un petit peu nos ennemis à ce moment-là.
Ça a changé quand même, je pense.
Oui. En tout cas, on s'entend bien maintenant.
En tout cas, si je comprends bien, il a changé de nombreuses fois de propriétaire, en fait.
Oui, c'est ça. En fait, au début, pendant à peu près 500 ans, il reste dans la même famille, la famille des Sillés, des barons de Sillés. Puis après, il est revendu, acheté, etc. Il y a eu pas mal de possessions différentes et il a même appartenu à Louis XIV, figurez-vous.
Louis XIV lui-même ou alors un de ses fils ?
Alors, Louis XIV l'a acheté, mais il n'est jamais venu et il n'a pas fait de ce château son Versailles en Sarthe, puisqu'en fait, il l'a acheté pour son fils illégitime, qu'il a eu avec une de ses maîtresses. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu moins connu.
Un petit cadeau sympa quand même.
Oui, voilà.
Il n'a jamais été détruit ou endommagé, je pense par exemple aux guerres qu'il y a pu avoir, aux bombardements, etc. En Normandie, on sait qu'il y a eu pas mal de monuments qui ont été détruits. Est-ce que le château de Sillé, lui, est resté intact ?
Oui, il est resté intact. En fait, à Ciel-Guillaume, comme dans plusieurs villes, ce qui était visé par les bombardements alliés lors de la libération, c'était la gare de la ville. Et donc, la gare avait été visée, mais également les quartiers alentours. Le château, lui, est un petit peu loin de la gare et il a été totalement épargné. Donc, pas de dégradation à ce niveau-là. En fait, les dégradations ont eu lieu à cause du temps qui passe, des différentes occupations successives du château et des changements de propriétaires, mais pas forcément pour des raisons de bombardement ou de guerre.
Et il y a aussi un truc qui me fascine, c'est que le château au début, forcément, il avait un côté défensif, tu en as un petit peu parlé, mais au fur et à mesure des années, je pense par exemple aux années 1800-1900, là le château, forcément, il change de rôle.
Oui, tout à fait. C'est la particularité aussi du château de Ciel-Guillaume, c'est qu'il n'a jamais été abandonné, puisque à la Révolution française, les nobles doivent partir, donc le château est réquisitionné. Et au lieu d'être complètement laissé à l'abandon, il est donné à la ville de Ciel-Guillaume. D'ailleurs, il est encore aujourd'hui municipal, ce château. Et au XIXe siècle, en fait, on va installer dans le château plein d'institutions publics, notamment la mairie de la ville, le palais de justice, la maison d'arrêt, la prison, mais aussi et surtout le collège de la ville. Et ce sera un établissement scolaire pendant très longtemps, puisque le lycée de Ciel-Guillaume était encore dans le château jusqu'en 1971.
C'est fou, une école dans un château.
Oui. Et encore aujourd'hui, il y a un lien avec l'école, parce que même si le lycée a déménagé dans des bâtiments plus modernes, eh bien, il y a une aile du château qui ne se visite pas, puisque c'est la cantine de l'école primaire, qui est juste à côté. Donc, il y a des enfants qui, pendant la période scolaire, viennent tous les midis manger dans un château.
C'est trop bien. Ça, c'est, ouais. C'est des belles anecdotes, ça. Est-ce qu'il y a d'autres petites légendes qui entourent l'histoire de ce château ?
Bah, il y en a pas mal. Évidemment, le Moyen-Âge, je pense que ça fait toujours écho à plein d'histoires, de légendes. Peut-être une histoire un peu plus insolite et plus récente surtout. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a eu un legs exceptionnel il y a quelques mois.
Il y a quelques mois ?
Au château de Cille. Ouais. Donc, c'est une histoire très récente, mais c'est une très belle histoire. Donc, Je peux vous la raconter.
Avec plaisir.
En fait, en novembre 2024, donc vous voyez, c'était en effet il n'y a même pas un an, on a reçu un courrier d'un notaire de Gap, donc du sud de la France, qui nous annonçait que la ville de Sillé allait recevoir un héritage, puisqu'on a deux personnes qui, dans leur testament, ont décidé de tout nous léguer, tout leur patrimoine financier et immobilier. Et on se demandait bien pourquoi, parce que c'était des personnes du sud de la France. Et donc on a un petit peu creusé cette histoire et on a découvert que donc Jeanne Dufour, c'était madame, et André Guité, le monsieur, s'étaient rencontrés au château lorsqu'ils étaient collégiens, justement, dans les années, fin des années 30. Ils se sont rencontrés ici, adolescents. Ils sont originaires de la Sarthe, hein, et en fait, ils sont tombés amoureux, ils sont restés toute leur vie ensemble, ils n'ont pas eu d'enfants, ils ont déménagé dans le sud à la vingtaine, ils ne sont jamais revenus par ici. Et donc, on ne les connaissait pas, mais eux n'avaient pas oublié le château, puisqu'ils ont décidé de tout léguer à la ville pour la restauration et la mise en valeur du château.
C'est
donc,
fou.
On a aujourd'hui un legs exceptionnel de 600 000 euros qui vont être dédiés à la mise en valeur du château.
Ça, c'est quand même une anecdote qui est vraiment exceptionnelle pour le coup. Et ils ne vous ont pas du tout prévenu, envoyé une lettre en disant voilà.
Non, rien. En fait, on l'a vraiment su quelques semaines après le décès de Madame Guité. Et en fait, on n'était pas au courant, mais la famille était au courant. On a pu rencontrer une membre de la famille qui nous a dit oui, tout le monde savait que ça allait appartenir au château à leur mort. Donc,
mais au début, quand vous avez
c'est une
reçu,
belle histoire.
Au début, quand vous avez reçu la lettre, vous avez dû ne pas y croire ou enfin vous dire c'est un canulaire ou quelque chose comme ça.
C'est monsieur le maire qui en effet a reçu la lettre et qui m'a appelé juste après. On en a discuté. Jusqu'à ce qu'on appelle le notaire, on pensait vraiment que c'était un canular en effet. Le notaire nous a bien certifié que c'était vrai. Donc, monsieur le maire est descendu dans le sud de la France pour signer les papiers, etc. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a grâce à eux l'opportunité de sauvegarder ce patrimoine.
Mais comment est-ce que les 600 000 euros de ce legs vont-ils servir pour conserver ce château ?
Alors, comme je le disais, la partie du XVIIe siècle, elle est actuellement en restauration. Donc ça, c'est un projet qui a été lancé il y a presque 2 ans maintenant et qui s'achève dans quelques semaines. Mais on avait déjà en tête de refaire aussi l'intérieur du logis, puisque la restauration actuelle ne concerne que le toit, les murs, les menuiseries. Mais on avait déjà imaginé refaire des salles à l'intérieur pour les ouvrir au public, en faire un musée notamment. Et donc, en fait, grâce à ce legs de 600 000 euros, on va pouvoir justement poursuivre les travaux, réhabiliter les salles et créer un espace muséographique. Et évidemment, on a pour projet de donner le nom, monsieur et madame Guité, à une des salles du futur musée. Et puis parler de leur histoire dans un endroit aussi du musée, parce qu'il faut, voilà, il faut les mettre en avant et les remercier pour leur legs qui est exceptionnel. Donc voilà, grâce à eux, on peut quand même continuer ces travaux. Donc c'est une belle chose.
Ça a dû quand même pas mal changer vos plans, parce que je pense que vous aviez prévu un budget pour telle rénovation, pour tel entretien, et d'un coup d'avoir tout ce budget-là, est-ce que vous avez appelé certaines personnes pour justement aider à savoir qu'est-ce qu'on va prioriser?
Oui, en effet, on avait un budget déjà un peu en tête, mais là, ça a complètement changé le projet, notamment peut-être qu'on n'aurait pas restauré tout un étage entier, on aurait peut-être fait qu'une pièce donc voilà. Et puis grâce à ce leg, eh bien on est aussi suivi par les différentes institutions partenaires qui nous subventionnent les travaux. Voilà, on a le département, la région, mais aussi l'État qui donne des subventions pour la restauration des monuments historiques. Eh bien, en fait, là, on peut leur dire, vous voyez, on a déjà un budget, nous, en interne. Vous pouvez nous suivre pour continuer ce beau projet. Et c'est ce qui se passe. On a le soutien quand même de plusieurs partenaires.
Globalement, c'est le temps qui endommage le château.
Oui, c'est le temps qui endommage le château.
Pas après, tellement les visites.
Là, non. En fait, là, c'était un peu particulier. La restauration a eu lieu puisque, comme je vous l'ai dit, il y a eu dans le logis le collège, la mairie, la justice, plein de choses. Et donc, forcément, il a fallu adapter. Le château n'était pas fait pour accueillir autant d'institutions publiques. Donc, à ce moment-là, ils avaient détruit pas mal de choses, de murs. Ils avaient cassé des fenêtres, etc. Et surtout, la toiture avait brûlé au début du XXe siècle. Et donc, elle avait été refaite, mais très rapidement, en pin, donc dans un matériau pas forcément adapté. Et donc, c'est pour ça qu'une centaine d'années après, début 21e siècle, eh bien, cette toiture, elle était en très mauvais état. Et à cause, en effet, des intempéries, notamment, il y avait des infiltrations d'eau, le bois commençait à pourrir. Donc, c'est plutôt les effets, en effet, du temps qui passe et des intempéries qui dégrade le château.
Mais un leg est arrivé, donc les choses vont changer. Toi qui es chargée de communication, comment est-ce que tu fais pour rendre ce château attractif?
Alors, pour le rendre attractif, en effet, la communication est importante, donc il faut qu'on se fasse connaître. On a un tout nouveau site, finalement, même si ce château a des centaines et des centaines d'années. Il est ouvert au public seulement depuis 2018, de manière régulière, tous les étés. Donc, il faut faire vivre ce lieu et communiquer sur son ouverture. Et je pense que ce qui fonctionne aussi, là, depuis quelques années, c'est qu'on a une programmation quand même très diversifié et on a plein de choses de proposer l'été pour les familles. On a des ateliers pour les enfants, on a des visites nocturnes qui cartonnent, qui sont complètes toutes les semaines. Donc je pense qu'il y a une programmation quand même très variée et comme ça, il y en a pour tous les goûts.
C'est vrai qu'une visite d'un château en nocturne, ça doit être une expérience assez incroyable.
Oui, non mais c'est vraiment, ça rend la visite totalement différente. On est vraiment plongé dans une atmosphère médiévale, parce qu'aujourd'hui, quand on visite les châteaux, on a toujours des spots, des lumières artificielles, et on oublie qu'en fait, on ne vivait pas avec toute cette électricité, que tout était très tamisé. Donc là, en fait, nous, on éclaire tout à la bougie. Alors, attention, des fausses bougies, parce que on a quand même la charpente médiévale une partie de la charpente qui est encore intacte, donc voilà. Mais et ça rend vraiment une atmosphère déjà assez intimiste, parce qu'on fait une visite nocturne seulement en petit groupe de 25 personnes. On s'imprègne vraiment du Moyen-Âge et on arrive mieux à s'imaginer la vie dans un château à cette époque-là.
Mais c'est aussi un lieu d'exposition, j'ai vu. Il y a une pièce qui est dédiée pour exposer ses œuvres. Mais c'est quoi justement les œuvres qu'on peut retrouver? Est-ce que c'est des œuvres spécialement médiévales ou alors vraiment de tout art?
Alors, en fait, en ce moment, à cause des travaux, on n'a pas de lieu d'exposition.
Aïe.
En fait, en ce moment, c'est seulement la tour médiévale et les quatre pièces à l'intérieur qui se visitent, parce que la partie exposition, elle est dans le logis 17e qui est en travaux. Mais justement, on exposait avant beaucoup d'artistes locaux. Et puis, et surtout, la mairie possède une belle collection d'un artiste sillien. Il s'appelle Arsène-Marie Lefeuvre. Alors, peut-être que son nom ne vous dit rien, mais son dessin le plus connu, c'est le bébé Cadom. Donc, si vous connaissez un peu la marque ou alors que vous avez en tête l'image de ce bébé un peu joufflu dans sa baignoire, bah, en fait, c'est un artiste de Sillé qui l'a dessiné.
Rien ne remplace l'huile d'amande douce de Cadom. Cadom, c'est toute la douceur qu'il faut à ma peau comme à celle de mon bébé. Mon bébé Cadom.
Cadom amande douce. Rien n'est trop doux pour votre peau.
Voilà, et donc
connu
on
pour
a
le bébé Cadom, incroyable.
Ouais, exactement. Donc, en fait, nous, on a à peu près 1000 œuvres de cet artiste qui était très prolifique. Il a fait plein d'autres choses, hein, des dessins pour des hôtels particuliers, des peintures, voilà. Et donc, on a une partie de la collection Bébé Cadom, les premiers dessins de la marque, etc. Et donc, ça, c'était exposé dans une partie du château avant les travaux, et ça le sera après travaux. Et d'ailleurs, notamment, les espaces muséographiques qu'on va créer, dont je vous ai parlé, seront presque entièrement dédiés à cet artiste et au bébé Cadom.
Ça, c'est noté. Est-ce que tu saurais nous dire à peu près quand est-ce que ça va réouvrir ?
Ça, c'est toujours compliqué parce que ouais. Les travaux peuvent prendre pas mal de temps. Je dirais soit fin d'été prochain ou l'été suivant. Ça ouvrira vraiment entièrement. Ouais. Prend du temps parce que si on veut le faire bien, il faut qu'on prenne le temps aussi d'imaginer un beau musée.
Et puis ça reste quand même un lieu qui a des centaines et des centaines d'années, donc un ou deux ans d'attente sur 500 ans d'histoire, bon.
C'est ça, finalement, ça c'est pas grand-chose. Et puis, il y a quand même la partie médiévale qui est toujours visitable et qui est quand même exceptionnelle avec sa charpente du 15e et puis des salles où on évoque la vie quotidienne au Moyen-Âge. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire et puis il faut patienter un petit peu.
Et en plus, au-delà du château, il est aussi possible de visiter la ville de Sillé-le-Guillaume. Tu fais ces visites de Sillé. Qu'est-ce qu'on retrouve de particulier justement dans cette ville ?
Alors oui, en effet, Sillé-le-Guillaume est labellisée petite cité de caractère depuis deux ans maintenant. Et donc, on a un parcours de découverte dans la ville hein, qui est aussi accessible tout le temps, des petits livrets. On traverse les petites ruelles du vieux Sillé, où on retrouve à certains endroits l'étroitesse des rues médiévales. Et puis, la partie 19e prend aussi beaucoup de place à Sillé, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, c'était une ville très riche, très importante. C'est un carrefour marchand entre ben voilà, Alençon, Le Mans, Laval. Les gens passaient à Sillé. D'ailleurs, la gare est à Sillé. Encore aujourd'hui, elle fonctionne bien, mais parce qu'on était au 19e siècle un endroit si important pour les marchandises qu'il fallait une gare. Donc, il y a beaucoup de belles maisons bourgeoises du 19e siècle. Voilà, tout ce qui rappelle un petit peu cet âge d'or. De l'époque de Sillé.
Bon, au moins c'est noté. Vu que la forêt de Sillé, actuellement, on ne peut pas y aller. Elle est sûrement en feu, ou en tout cas, il y a des risques d'incendie. Allez visiter au moins la ville de Sillé-le-Guillaume ou alors son château. Merci beaucoup, Mélanie Audouille.
Je vous en prie.
D'avoir été avec nous sur Radio Pulse.
il fait
chaud dans le château. C'est vrai qu'il faisait froid dans les châteaux. Frais. Ça fait plaisir.
Oui, dans la tour médiévale, il fait frais, donc vous serez très bien.
Je sais pas si on peut prendre son petit siège et s'asseoir pour lire un livre, mais.
Si, pas de problème.
Bon, bah, c'est noté.
Vous pouvez rester jusqu'à 18h. On ferme à 18h, mais vous pouvez passer de l'après-midi chez nous. Il n'y a aucun problème. Avec plaisir.
Dans le frigo de Sillé-le-Guillaume. Incroyable.
C'est ça.
Merci beaucoup, Mélanie. Et puis à bientôt.
Avec grand plaisir. Au revoir.